partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à tous, Jacqueline Vorras sur Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 11h sur IDFM Radio, la radio en FM, en web radio, DAB+, pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Vous êtes chef d'entreprise et vous n'êtes pas encore adhérent de la CPME, cette émission est faite pour vous. Ce matin, 31 mars, dernier jour du mois, c'est notre spécial CPME à l'économie en direct. Un rendez-vous devenu incontournable pour ce coup de projecteur de ces chefs d'entreprise, tous adhérents de ce puissant réseau. L'occasion pour nous de rester connectés à son actualité, de découvrir de nouvelles activités à travers ses dirigeants que j'accueille à présent. Laurent Pillard, bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être parmi nous Laurent. Président de la CPME du Val d'Oise, Confédération des petites et moyennes entreprises, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val d'Oise depuis 12 ans, fondateur et dirigeant de l'ENA Conseil, organisme de formation pluridisciplinaire, et plus récemment dirigeant de l'agence 46, spécialisée dans l'imprimerie numérique. Comme chaque fois dans cette spéciale CPME, vous nous rappellerez, vous rappellerez à nos auditrices et auditeurs le rôle de la CPME et vous nous tiendrez informés des dernières actualités de votre antenne du Val d'Oise. À vos côtés, Sarah Belleil. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci pour votre présence à IDFM Radio. Vous êtes directrice de gestion chez AZ Info, info comme informatique.
Exactement.
Vous nous direz tout sur AZ Info et vos missions au sein de cette entreprise, mais aussi pourquoi vous avez adhéré à la CPME. Et à vos côtés, Pierre-Yves Conan. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Ravi également de votre participation en direct à cette émission. Directeur commercial, cofondateur Orbital Healthcare, dont l'activité est de promouvoir des consommables et des dispositifs médicaux fabriqués en Europe à destination des structures hospitalières. Et nous avons hâte dans quelques instants d'en savoir plus et sur votre entreprise et votre adhésion à la CPME.
Avec plaisir.
Merci Pierre-Yves. Bienvenue à tous les trois et merci de participer en direct dans l'économie en direct sur IDFM Radio, avec aussi un coucou à Mathilde qui m'aide à préparer ces émissions. Une émission bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli. Avant de donner la parole à mes invités, je voudrais vous lire un communiqué de presse de la Fondation Cognac Jay, une fondation qui tout au long de l'année se mobilise contre le cancer. Et dans le cadre des rencontres solidaires du 31 mars 2023, un rendez-vous annuel de l'engagement social et solidaire, des initiatives remarquables telles que Bulle de mode by Élise, pour l'association Élise Princesse Courageuse, lauréat du prix Fondation Cognac Jay 2022 et candidate au prix du public de la Fondation Cognac Jay. Elle a donc besoin de vous pour remporter ce prix du public et gagner 5000 euros supplémentaires, une somme qui l'aidera à poursuivre son action, puisque mettre la mode au service du soin en oncologie pédiatrique, tel est le cœur de ce projet, où le vêtement participe au bien-être des jeunes patients. Ils choisissent les vêtements qu'ils aiment, qui sont ensuite ajustés aux problématiques médicales des enfants. Découvrez leur projet incubé par la Ruche Paris et surtout votez pour eux. Pour cela, il suffit d'aller sur le site rencontre.labsolidaire.org. Un vote qui prend fin en début d'après-midi et ne demande que quelques secondes. Merci pour Élise Princesse Courageuse, une petite fille qui nous a quittés bien trop jeune. Christophe.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
L'économie en direct, c'est aussi des chroniques. À présent, nous avons rendez-vous avec Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, auteur de notre chronique bimensuelle « Décryptons le monde » et avec lequel nous allons faire ce matin un tour des actualités côté Russie et Moyen-Orient. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, bonjour à vos invités.
Merci. La situation militaire en Ukraine n'évolue pas sur le front, mais le Kremlin joue une nouvelle fois la carte nucléaire. Avec vous Gérard, pouvons-nous réfléchir quelques minutes à la complexité, au risque éventuel que représente la décision russe d'installer des missiles nucléaires tactiques en Biélorussie ?
Eh bien, écoutez, comme vous l'avez très bien dit à vous-même, Jacqueline, la situation sur le front, qui maintenant s'étend sur plus de 800 kilomètres, ne bouge pratiquement pas, hormis les bombardements très intensifs. Il n'y a pas de dynamique sur le front, aucune offensive de part et d'autre, à part donc les combats sanglants, très sanglants du côté de Bakhmout. Donc, la Russie n'agit pas vraiment sur le front en termes d'offensive. Elle a choisi premièrement d'agir par des bombardements importants sur les villes, les infrastructures énergétiques ukrainiennes. On l'a vu récemment agir aussi en dehors du théâtre en faisant donc disparaître un drone américain au-dessus de la mer Noire. Elle maintient, elle développe ses activités en Afrique, au Moyen-Orient avec l'Iran et en Extrême-Orient avec la Corée et des manœuvres militaires. Donc l'ensemble de ce dispositif militaire et diplomatique se situe en dehors du front et il est destiné à montrer la capacité de nuisance de la Russie, sa dangerosité globale. Donc il faut faire peur, vu de Moscou, pour faire diminuer le soutien à l'Ukraine de la part du camp occidental. Tout cela est donc calculé, coordonné, voulu.
Oui, des annonces qui seraient à prendre au sérieux, selon le président américain Joe Biden, malgré tout.
Mais il faut continuer surtout à faire peur. Il est essentiel pour la Russie d'agir par tous les moyens possibles sur les opinions publiques occidentales et bien sûr surtout européennes puisque nous sommes les plus proches. Donc comme nous le savons très bien, l'atome fait peur. Alors utilisons la menace nucléaire, se dit le Kremlin, au maximum vis-à-vis non pas des forces militaires rivales ukrainiennes, il ne s'agit pas d'intervenir nucléairement sur le front, mais vis-à-vis des populations européennes. Cette stratégie a été utilisée par le Kremlin depuis le début du conflit, quelques jours après, le 24 février 2022, le président Vladimir Poutine avait annoncé la hausse de l'alerte nucléaire russe, donc en menaçant l'Europe de frappe. Mais cela n'a eu aucun effet depuis un an, ni sur les opinions publiques européennes ni américaines. L'effet principal est de dévaluer finalement la doctrine de dissuasion nucléaire de la Russie.
Donc vous êtes en train de nous dire que la mise en place de missiles nucléaires en Biélorussie ne change pas l'équilibre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, voire entre la Russie et l'OTAN.
Jacqueline, vous connaissez ma devise, à question très précise, réponse également très précise. Eh bien non, cette justiculation nucléaire russe potentielle en Biélorussie ne change pas l'équilibre global des forces. D'abord, le dispositif annoncé est relativement flou. Il s'agit mettre à disposition des missiles à partir du 1er juillet, voyez-vous. Donc ce n'est pas à effet immédiat et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là en Ukraine et ailleurs en Russie. 3 mois, c'est très très long dans une situation aussi mobile. Il s'agit donc d'autre part d'un nombre très limité de missiles portés affectés par des avions biélorusses. Donc là aussi, on est devant un dispositif relativement élastique. Et d'autre part, surtout, la Russie dispose de milliers de missiles et donc un petit nombre dans l'enclave de Kaliningrad, située au nord de la Pologne et entre la Pologne et les États baltes. Et donc, ces missiles sont géographiquement au sein même du territoire de l'OTAN et cela est beaucoup plus dangereux. Et il ne se passe rien. Combien de fois les Russes ont fait rouler leurs chars, n'est-ce pas, depuis des dizaines d'années à Berlin, Varsovie, Prague, Kaboul, la Géorgie, la Syrie, mais les missiles nucléaires sont destinés à défendre les intérêts vitaux d'un pays. Ne l'oublions pas, et ce n'est pas le cas.
Bon, on va pas l'oublier. L'autre regard à porter sur cette situation, ce sont les répercussions sur le pouvoir du président biélorusse, Loukachenko, et la population. Quelles sont, à votre avis, pour l'un et l'autre, les positions et les sentiments ?
Alors, le président Loukachenko, et vous faites très bien de citer cela, a été sauvé par la Russie il y a un peu plus de 2 ans, n'est-ce pas, au mois d'août 2020 et les mois suivants, parce qu'il avait gagné par fraude les élections présidentielles. Et donc, il y a eu beaucoup de manifestations, son pouvoir a été mis en question. Donc, il doit beaucoup à la Russie, et donc, mais aussi, il doit, vis-à-vis de sa population, faire attention et minimiser sa vassalisation. Donc il est sur un chemin de crête. D'un côté, il a besoin des Russes, mais il ne faut pas trop de Russie vis-à-vis de la population biélorusse, car le sentiment anti-russe est assez fort en Biélorussie. Il y a eu de très nombreux sabotages, n'est-ce pas, organisés par des employés, des cadres de la compagnie des chemins de fer biélorusses quand les troupes russes ont envahi l'Ukraine en passant par la Biélorussie. Il y a un bataillon biélorusse donc qui se bat en Ukraine contre les occupants russes. Donc, voyez-vous, il y a vraiment des réalités sociales en Biélorussie fortement anti-russes. Et les Russes le savent. Et ils ne veulent donc pas l'augmenter. Les décisions russes en Biélorussie sont prises à minima. Et le jour où le pouvoir russe faiblira à Moscou, une partie de la population biélorusse, et surtout les jeunes, eh bien, seront tentés de renverser le régime.
Oui, et les protagonistes actuels passeront aux oubliettes probablement. Merci Gérard, votre conclusion est un peu étonnante hein, par rapport à la pression que le régime russe exerce actuellement sur les équipes au pouvoir à Minsk. Mais comme vous nous le dites régulièrement, la géopolitique pose son regard sur le temps long. Alors attendons pour voir comment la situation biélorusse va évoluer après cette décision nucléaire russe. Espérons comme vous qu'il faut y voir de la gesticulation, plus de la gesticulation qu'un accroissement du risque nucléaire. Vous souhaitiez nous parler comme deuxième sujet aussi, on va regarder vers le Moyen-Orient, oh là là, avec la surprenante reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Or, nous savons que Téhéran, c'est le leader du monde musulman chiite, et Riyad, celui du monde sunnite, de surcroît très majoritaire. Nous savons aussi que l'Arabie est armée par les États-Unis et que l'Iran considère Washington comme son plus grand ennemi. Alors Gérard, what happens? Que se passe-t-il?
Ah, mais je vois que vous êtes polyglotte également.
Complètement.
Bien, mais écoutez, il y a dans l'histoire toujours des hauts et des bas, et les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite n'échappent pas à cela. Les relations diplomatiques sont en place depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a eu une première interruption de 1988 à 1991, et après, donc, elles ont été reprises sur un conflit religieux. Deuxièmement, il y a eu cette interruption à partir de 2016 et donc à nouveau parce qu'il y avait un leader chiite saoudien exécuté par le pouvoir royal saoudien, donc ça a été le déclenchement de la crise, et maintenant donc reprise des relations normales, donc des contacts et des échanges se déroulaient déjà entre l'Iran et l'Arabie saoudite depuis 2 ans, de façon feutrée, par l'intermédiaire des services secrets, et cela se passait à Bagdad. Donc voilà, il y a toujours des préparatifs avant des signatures ou des décisions importantes, et ces relations à Bagdad en faisaient partie. Et donc d'autre part, n'oublions pas que cet accord a été pris à Pékin, donc avec le client et fournisseur chinois. Et ce n'est pas pour rien, pour ce rapprochement, la signature des relations diplomatiques a été paraphée à Pékin.
Oui, donc cela signifierait-il que l'influence diplomatique américaine diminue ou a diminué dans la région depuis ces dernières années? Quelle grille de lecture faut-il appliquer dans le cas présent?
Eh bien, Jacqueline, vous faites très bien de parler de grille de lecture, car avant la grille de lecture diplomatique, il faut utiliser la grille de lecture commerciale, et je ne vais peut-être pas vous surprendre en précisant la grille pétrolière, car il y a un grand changement qui s'est produit et que l'on ne met absolument pas en évidence, et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire, c'est la grille de changement de l'approvisionnement américain. Depuis une dizaine d'années, les États-Unis ont mis en œuvre ce que l'on connaît maintenant sous le nom de pétrole de schiste, et ils ont année après année développé leur production jusqu'à devenir en 2019 les premiers producteurs de pétrole au monde. Mais cela a un corollaire. Si vous produisez plus, vous achetez moins à l'extérieur. Or, les États-Unis ont été le principal client de l'Arabie saoudite avant cela. Les États-Unis achetaient jusqu'à 2 millions de barils par jour. Alors, juste un petit point de repère, la France consomme environ 1 million et demi de barils par jour, voyez-vous. Donc, ce sont des volumes très très conséquents. Et donc, à partir de 2010, 2011, 2012, les États-Unis ont commencé à baisser leur achat de pétrole en Arabie saoudite, et maintenant ce chiffre apparaît à peu près à diminuer de 80%, et la place a été prise par la Chine. Ces volumes ont été repris par la Chine, qui est actuellement aussi le premier client pétrolier de l'Iran. Donc nous assistons au Moyen-Orient à un rééquilibrage diplomatique en faveur de Pékin et de ses intérêts stratégiques, mais vis-à-vis et via le pétrole.
Oui. Merci Gérard pour cet éclairage inattendu. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'influence de Pékin par rapport à Washington auprès de l'Arabie saoudite. Merci de nous montrer cette évolution des échanges pétroliers sur la planète. Preuve que faits et réalités économiques ont un poids naturellement incomparable dans la diplomatie des États. Gérard, avant de nous quitter, 2 informations. La première, Goodbye Poutine, est sortie en vente aux éditions Ginko, un ouvrage collaboratif auquel vous avez participé sous la direction d'Hélène Blanc. Et deuxième info...
Absolument.
Oui.
Merci beaucoup. Et il existe même une version numérique sur les grandes plateformes disponibles.
Ah bah très bien. Merci de le préciser, Gérard. Et deuxième info, toutes vos interventions se retrouvent sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. C'est gratuit. Il faut juste s'abonner. À bientôt, Gérard, pour une nouvelle chronique. Bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à vos amis. Cheia de amizade e carinho, por isso da simplicidade, viver nesse mundo sem mata.
J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre.
l'amour. Y a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages.
Bon, créons un monde au paradis. J'ai des amis à des carines. Moi, j'ai une âme simplicité. Vivez les mots douces et mal.
On est au pays des merveilles, chérie, à la vie, à Césaria sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero, Brasil, les Fado, les Playa, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage.
C'est l'économie en direct et ce matin, spécial CPME en compagnie de Laurent Pillard, président de la CPME du Val d'Oise, Confédération des petites et moyennes entreprises, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val d'Oise, fondateur et dirigeant de l'ENA Conseil et l'agence 46. Sarah Bellel, directrice de gestion chez AZ Info, adhérente de la CPME. Pierre-Yves Conan, directeur commercial, cofondateur Orbital Healthcare et adhérent de la CPME. Et sans plus attendre, focus sur vous, Laurent Pillard, président de la CPME. Laurent, je vous propose de revenir peut-être en détail sur les points forts de la CPME 95 depuis notre dernière rencontre.
Avec grand plaisir. On commence par où? Je suis fatigué, moi. Il y en a eu.
Déjà, pour garder nos bonnes habitudes, votre nombre d'adhérents.
Alors, nombre d'adhérents, là, annoncé justement en Assemblée Générale qui avait lieu le 16 mars, 372, mais depuis, il a encore monté.
Oui.
Rappelons, et je l'ai dit en AG, l'objectif, c'est 450 à la fin de l'année. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Donc, voilà, le baromètre est positif. Donc voilà, c'est un gros travail de Mathilde à qui je fais un clin d'œil également,
oui.
Puisqu'elle se charge du développement de la CPME.
Très bien, ben bravo Mathilde alors. Et moi j'aurais aimé débuter un petit peu notre échange différemment des fois précédentes, mais après la Covid, le confinement 2023, la guerre en Ukraine, les hausses de l'énergie, maintenant il y a le 49.3. Comment vos commentaires, Laurent?
Le 49.3, alors... On est quand même pas trop, on est un peu épargné dans le Val d'Oise.
Oui,
discuté hier
vrai.
Avec le président de Paris des poubelles et de tout ce qui se passe avec notre cher maire de Paris. Alors le Val d'Oise est directement pas impacté, mais c'est nos entreprises du Val d'Oise qui vont travailler à Paris qui elles sont impactées. Donc effectivement, une fois de plus. des ennuis pour nos chefs d'entreprise, des complications qu'on rajoute et qu'on rajoute et qu'on rajoute. À un moment, on se dit à chaque fois ça va jamais tenir, mais bon, ça tient quand même.
Ça tient quand même.
C'est du miracle peut-être, mais il faut que ça s'arrête quand même rapidement. Donc voilà, faut repartir sur des choses positives. Et je sais pas où on va là, mais on va pas dans le bon sens de plus.
Alors, il y a quelques jours, vous l'avez évoqué, s'est tenue votre Assemblée Générale. Vous voulez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors une belle Assemblée Générale, 160 personnes présentes. Donc déjà, c'est très bon taux de participation. Assemblée Générale où on faisait le bilan forcément de l'année, plus de 40 événements, on en a déjà parlé, plus de 2200 entreprises participantes à nos événements. En une année, c'est beaucoup. On a fait un focus un peu sur aussi la répartition de nos adhérents et on a pu se rendre compte et on l'a présenté en Assemblée Générale. On a quand même 16% de nos adhérents qui sont des industriels.
Oui, c'est bien.
Donc c'est un beau chiffre, je suis content quand même, c'est que on dit souvent les petites et moyennes entreprises, mais on a des petites et moyennes industries aussi. Donc c'est important, voilà. Alors bien entendu, on travaille avec les gros, de chez nos amis du MEDEF, il n'y a pas de souci.
Bien sûr.
Et c'est ce que je disais en Assemblée Générale à la fin, c'est entreprendre ensemble, c'est le plus important. Donc voilà, donc c'est un chiffre qui est à souligner quand même. De même que souvent on dit oui, c'est des petites boîtes, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou indépendants. La CPME du Val d'Oise, 26% des adhérents effectivement sont en statut d'indépendant. Mais tout le reste, les 75% qui restent, sont quand même avec plus d'un salarié. Et en plus de 10 salariés, on a quand même 28% de nos adhérents qui sont en plus de 10 salariés. Donc c'est aussi un très beau chiffre.
Bien sûr. Et puis l'important, c'est de créer la richesse économique. Hein, donc, bien sûr. Mardi, Christophe nous en a dit un mot. Il y avait le salon Effervescence, où nous étions présents, bien sûr, comme chaque année. Un salon formidable.
Ben, super salon, effectivement, plein d'effervescence. On peut dire que ça, c'est sûr. 1200 visiteurs, et encore, les jeunes qui étaient à l'entrée ont arrêté de compter. Donc, on pense peut-être 1500 personnes. Alors, je dis on, parce que la CPME est co-organisatrice du salon. Alors, faut féliciter et remercier deux personnes importantes. C'est bien entendu Philippe Écran, qui est le président du salon, et Pierre Cuchy, qui est le moteur général de tout ça, avec qui est le président de la Chambre de commerce. Voilà, ils ont beaucoup œuvré. Ils nous ont ramené cette année beaucoup de beau monde, comme on dit, puisqu'on avait tous les présidents de CCI, de région, d'Île-de-France qui étaient là.
C'est vrai, oui.
On avait le président, bien entendu, Restino d'Île-de-France, mais également 93-94.
Oui, il y avait Daniel Dubrac,
également. Voilà, on avait même Alain Di Crescenzo, qui est le président de CCI France, qui est venu. Voilà, le salon Effervescence parle à tout le monde aujourd'hui. Donc ça a mis un gros coup de projecteur pour le 95. Il y avait également une partie du salon qui était affectée à Agoralim. Vous savez, c'est le projet du Rungis du Val d'Oise. Donc voilà, le président Stéphane Agnelli était là, bien entendu, avec toutes ses équipes. Il y avait le préfet, donc c'était aussi un moyen pour Philippe Écran et Pierre Cuchy de maintenir une pression sur les services de l'État pour que le projet se fasse. Rappelons, le dernier projet qu'il y a eu dans le Val d'Oise, c'est la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise. Donc c'était il y a 40 ou 50 ans. Donc voilà, on a plein de places au nord du département, on peut faire plein de belles choses, il y a plein de choses qui se mettent en place.
Oui, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que Agoralim ne se fasse pas. Il y a tellement de connexions qui se mettent en place.
Mais jusqu'au bout, il faudra rester au contact.
Et je voulais dire aussi un mot sur l'effervescence s'est passée à Goussainville. Cette année, ça a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de découvrir le dynamisme de cette ville, avec ses élus, Abdelaziz Hamida, son maire, Marwan Chamaki, un adjoint, et puis plein d'autres qui ont vraiment tout fait pour que le salon se passe au mieux.
Ah oui, alors là, il y a une super équipe à Goussainville, il faut le reconnaître, c'est l'est du département, souvent un peu oublié. Alors moi, je l'ai pas oublié parce que j'ai été élevé dans l'est du département. Voilà, j'allais au cinéma au Flanda de Sarcelles.
D'accord.
Et on a ouvert une antenne à Roissy pour notamment cette raison. Il y a plein de belles choses, il y a plein de belles entreprises, il y a des pépites aussi sur l'Est. Et effectivement, l'équipe municipale de Goussainville voilà, a fait un super boulot et son maire a un discours très positif, toujours très positif envers tout le monde. Et je crois que c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Faut arrêter de se plaindre. Et voilà, quand on est chef d'entreprise, on dit toujours qu'on est optimiste. Et oui, effectivement, nous aussi, nous sommes très très positif.
Oui, oui, quelqu'un de très accessible et pour IDFM qui a fait son émission en direct de là-bas, ils nous ont vraiment mis à disposition tout le matériel pour que on soit au mieux. Merci Laurent pour les actualités de la CPME. Peut-être un mot de l'ENA Conseil et puis Imprimerie 46.
Alors les activités privées vont bien aussi. Donc oui. Voilà, sur la partie formation, sur la partie hôtellerie, on doit ouvrir, on a des projets d'ouverture de classe à peu près une classe tous les deux mois jusqu'au JO. Donc c'est plutôt confortable comme situation. Oui. Voilà, et puis il faudra que ça continue derrière, mais déjà des classes qui s'ouvrent tous les deux mois, c'est bien. Maintenant il va falloir trouver du monde pour remplir ces classes, ça va être un autre sujet. Voilà. Et sur la partie imprimerie, ça va, il y a un début d'année qui était un petit peu compliqué, là c'est bien reparti. Donc voilà, on est plutôt confiant, on fait le job pour aller chercher du job. Voilà, faut pas effectivement rester dans son coin, faut aller au devant des entrepreneurs pour aller chercher des commandes.
Vous sentez que c'est toujours un peu compliqué pour recruter ?
Alors, recruter, oui. Alors moi, je suis content là. J'ai mon assistante de direction qui vient d'arriver après 3 mois d'attente.
Oui.
Donc voilà. Enfin, elle a commencé lundi. Mmh. Donc c'est oui, toujours compliqué.
Ouais.
Et aujourd'hui, il faut aller vite. J'avais au départ 3 entretiens, je crois. Et 2, comme l'entretien avait lieu 2 ou 3 jours après, avait déjà trouvé quelque chose. Donc effectivement, si j'ai un conseil à donner aux chefs d'entreprise qui recrutent, il faut prendre le rendez-vous le plus tôt possible et donner sa réponse le plus tôt possible
à la personne,
parce qu'il ne faut pas attendre, il y a tellement d'offres sur le marché que ça va très très vite.
C'est comme dans l'immobilier dans certaines villes. Laurent, je voudrais aussi profiter de votre venue pour rappeler un communiqué de presse aussi qui concerne les trophées numériques CPME,
oui,
qui vont distinguer 5 entrepreneurs qui remporteront les prix suivants: le prix développement, le prix notoriété, le prix emploi et compétences, le prix inclusion, le prix site internet en .fr. Donc il faut vraiment tenter sa chance. Pour concourir, c'est simple, il faut envoyer un dossier de candidature dûment rempli avant le 16 avril minuit. Le jury des trophées se réunira le 25 avril pour choisir 15 candidats, 3 pour chacun des 5 prix. Présélectionnés pour la qualité de leur dossier, ils remporteront un premier gain, une vidéo tournée dans leur entreprise pour qu'ils racontent leur démarche. Ces 15 vidéos de format court seront largement diffusées de manière sponsorisée sur les réseaux sociaux et au travers des canaux de communication de la CPME. Et sur la base de ces vidéos, au mois de juin, le public sera appelé à voter en ligne pour choisir son entreprise favorite, et ce, dans chacune des 5 catégories. La combinaison des notes du public et du jury permettra de composer la note finale. Dernière étape, les 5 lauréats seront dévoilés mercredi 5 juillet lors de la soirée de remise des prix. Chacun d'entre eux remportera la somme de 7000 euros et sera mis à l'honneur dans la communication des trophées.
C'est parfait, c'est un très bel événement. Alors j'invite toutes les entreprises du Val d'Oise, on va espérer que ceux d'Île-de-France n'entendent pas, ou de France maintenant que c'est IDFM et mondialement connu. Non mais il faut participer, parfois ça se joue à pas grand chose, il n'y a pas non plus pléthore de candidatures. Voilà, on est souvent relancé, les présidents, pour dire demandez à vos adhérents de participer, fouillez-les. Donc vraiment allez-y, donc voilà, et si vous n'êtes pas encore adhérent de la CPME, vous voulez participer, venez adhérer à la CPME et puis vous pourrez participer.
Voilà, et comme vous le dites, comme il n'y a pas tant de candidats que ça, on a toutes ses chances de remporter le prix.
Tout à fait.
Merci Laurent, merci pour ce panorama bien complet. Rappelez-nous justement ce qu'il faut faire pour adhérer à la CPME du Val d'Oise.
www.cpme95.fr, vous choisissez d'adhérer, vous pouvez payer en carte bancaire même sur le site directement, ou faire un virement ou envoyer un chèque, mais en tout cas avoir un premier contact et rencontrer Mathilde également.
Très bien, mais écoutez, des coordonnées qui se retrouveront bien sûr sur le podcast. Merci Laurent.
Merci.
Un peu de musique avant de retrouver Sarah et Pierre-Yves. À très vite.
reste pas d'ici. J'habite peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie. Parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi je ne suis plus tout à fait moi.
À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Oh non, ne me dis rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu importe qui m'appelle.
Quand on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Fais ton amour. Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Tu m'as oublié. À deux pas d'ici, j'ai essayé de revenir, de mettre un peu d'ordre à mes idées, les rafraîchir.
Je me suis coupé les cheveux, j'ai rasé les murs. Ce que j'ai fait, je n'en suis pas sûre.
Quand on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et ce matin à l'économie en direct, nous allons à la rencontre de la CPME avec toujours à mes côtés Laurent Pillard, président de la CPME du Val d'Oise, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val d'Oise, fondateur et dirigeant de l'ENA Conseil et l'Agence 46. Sarah Bellay, directrice de gestion chez AZ Info, adhérente de la CPME. Pierre-Yves Conant, directeur commercial, cofondateur de Orbital Healthcare et adhérent de la CPME. Je me tourne vers vous, Sarah. Quelques mots, Sarah, pour vous présenter.
Oui, alors bonjour à tous. Je voulais commencer par vous remercier déjà pour l'invitation.
Merci à vous.
Je fais partie de la société AZ Info. Donc, c'est une société de services informatiques qui est située à Cergy.
Oui.
Le concept est assez simple. L'idée, c'est de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion de leur parc informatique. Donc vraiment de A à Z, que ce soit le matériel, les logiciels, la cybersécurité, la maintenance, les dépannages et même dans la réalisation de leurs projets. Je suis également en parallèle, je me suis présentée là récemment pour la CPME 95 en tant qu'administratrice membre associée junior, donc
oui.
Un nouveau poste à la CPME 95. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Les juniors, c'est jusqu'à quel âge, Sarah?
C'est jusqu'à 30 ans.
Ouais. Donc on peut supposer que vous n'avez pas encore 30 ans.
Non, j'ai 25 ans.
toute jeune.
C'est ça. Donc voilà, je pense qu'en présentation, j'ai fait le tour.
Oui. Alors, donc AZ Info, sa création, c'était en 2007.
Tout à fait, oui.
Et je vous en avais pris la gérance en 2019.
Alors, je suis rentrée dans la société en 2019 en tant que salariée.
D'accord.
Là, actuellement, on est en train de voir pour que je puisse acheter des parts et devenir associée officiellement. Mais oui, je suis sur la direction depuis quasiment mon arrivée. J'ai remis beaucoup de choses en place.
Oui.
Donc, je travaille principalement sur le côté administratif, le marketing, la communication et tout ce qui va être aussi le développement au niveau des projets qu'on peut avoir sur les nouveaux produits, les nouveaux services. Voilà.
La cible de vos clients, quelle est-elle ?
Alors, on est plutôt TPE-PME pour le coup, vraiment uniquement les professionnels, hein, on ne fait pas du tout de particulier. On n'est pas concentré sur un seul corps de métier, vraiment, on a un peu de tout. Donc, on est capable d'accompagner aussi bien les laboratoires qui ont des données de santé qui sont assez sensibles, tout ça, que des auto-entrepreneurs ou les avocats qui sont souvent seuls ou sur des petites structures. Vraiment, on a un peu de tout dans nos clients.
Et quelle est parce que vous avez donc plusieurs cordes à votre arc, quelle est celle qui ressort dans l'activité plus que les autres, ou c'est égal?
J'essaie de répartir mon temps un peu de manière égale. Là, je m'investis du coup un petit peu plus sur les événements, sur la CPME. Après, à la base, j'étais vraiment sur le côté facturation, gestion, administratif. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de travail à faire dans la société à ce niveau-là. Et là, du coup, j'arrive à me libérer un peu plus de temps en ayant justement réussi à diminuer la quantité de travail sur la partie administrative. Donc, je peux me concentrer un peu plus sur les réseaux sociaux que j'essaie de mettre un petit peu plus en place. La mise en place de nouveaux services comme la téléphonie et le développement d'un site web aussi pour nos clients, pour qu'ils puissent faire leurs achats aussi en ligne maintenant et plus uniquement en prenant le téléphone pour voir avec nous et qu'on rédige un devis. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de simplifier les choses et puis d'être dans l'air du temps tout simplement en fin de compte. Hein.
Vous êtes votre entreprise n'a pas que des clients dans le Val d'Oise.
Non, on a des clients au niveau national, donc c'est-à-dire qu'on en a jusqu'à Lyon, Nantes, Toulon, vraiment même des clients qui étaient avant en région parisienne, qui ont déménagé, continuent de travailler avec nous. Donc on a le plaisir de pouvoir se déplacer en plus un peu partout en France et c'est vraiment agréable.
C'est agréable. Alors la création c'était 2007, donc c'est une entreprise qui a dû s'adapter adapter aux nouvelles technologies malgré tout.
Oui, tout à fait.
Ça s'est bien passé.
Oui, dans l'ensemble, oui, on a la chance d'être une équipe de passionnés pour le coup. Donc c'est vrai qu'on se tient au courant des dernières technologies, des avancées qu'il peut y avoir. On s'adapte aussi beaucoup aux besoins de nos clients. Donc s'ils ont besoin de quelque chose en particulier, même si actuellement on le propose pas, on va faire en sorte de pouvoir les accompagner et si besoin de développer quelque chose pour eux.
C'est ça, ils expriment un besoin et vous vous adaptez
voilà,
en
tout
fonction.
À fait. On fait vraiment du sur-mesure. C'est un besoin qui est quand même impératif pour les petites sociétés parce que c'est vraiment des choses à la carte. Et hélas, l'avantage, c'est que comme on est une structure qui reste très proche de nos clients, on a l'avantage de pouvoir leur proposer des choses qui sont très, très précises et vraiment centrées sur eux, ce qu'ils ont besoin et pas sur ce qui se fait en général.
Oui, oui, oui. On peut peut-être dire que c'est là votre valeur ajoutée.
Oui, je pense que ça fait partie de nos qualités, ça. Et puis, on est aussi très réactif sur tout ce qui va être, que ce soit les réalisations de devis ou même les dépannages. Quand on a un client qui nous appelle, on peut la plupart du temps le dépanner dans l'instant T. Donc voilà, c'est vraiment nos deux forces, ça va être celle-ci.
Parce que ça reste quand même un secteur concurrentiel.
Oui, c'est très, très concurrentiel. Donc, le marché est presque saturé, d'ailleurs. Donc, non, vraiment, c'est vrai que c'est ce qui nous permet de nous démarquer. Et on a l'avantage aussi d'avoir des clients qui sont très fidèles et qui nous suivent depuis le début de la société. Donc voilà.
Donc, c'est la preuve que ça marche bien.
Voilà.
Sarah Bellay, vous êtes aussi, donc vous nous l'avez dit, membre associé junior de la CPME. On y reviendra un petit peu après. Je voulais aussi qu'on parle de vous êtes auto-entrepreneuse en tant que monitrice d'équitation.
Oui, c'est
2018.
Ça. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai dû mettre l'activité un petit peu en stand-by. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion de participer et de m'investir dans AZ Info. Mais à l'origine de métier, oui, je suis monitrice d'équitation. J'ai pas fait de formation de cursus classique à part un bac S. Et derrière, j'ai fait 3 ans de formation dans le monde du cheval. Mmh. Et puis j'ai créé mon auto-entreprise à la suite de mes études, tout simplement. Mmh. Voilà. Et bon, alors pour l'instant, j'ai pas la chance de pouvoir enseigner aujourd'hui, mais c'est un projet à court terme de pouvoir me remettre là-dedans. Ouais, tout à fait.
À cœur. Mmh. À quel endroit vous vouliez donner des cours, à quel endroit?
Alors moi, je suis située dans le 95, donc ça va être mon secteur principal. Et après, je peux aller jusque dans le 78, le 60. Enfin voilà, je suis pas fermée. C'est pas le déplacement, c'est pas trop un problème.
C'est pas un problème.
Non, non, non.
Très bien. Bah écoutez, on vous souhaite que ça redémarre aussi de ce côté-là. Donc vous êtes adhérente à la CPME du Val d'Oise. Pourquoi la CPME plus qu'un autre réseau?
Déjà parce que on connaît bien Laurent.
Oui, c'est déjà un argument.
C'est déjà un bon point. Il nous a beaucoup encouragé à nous investir, dans la CPME. Et c'est vrai que quand on s'est inscrit, c'est assez récent, ça fait moins d'un an, qu'on a participé aux événements, qu'on a eu l'occasion de découvrir le réseau, tout ça. On a beaucoup apprécié la philosophie de l'association et comment je peux dire ça, le fait qu'on on puisse rencontrer beaucoup de monde, oui. développer nos réseaux, avoir un accompagnement lorsqu'on en a besoin.
Une synergie qui est efficace.
Oui. Tout à fait. Puis en parallèle, en plus, je suis adhérente du club EAF.
Ah oui,
voilà,
très bien.
Donc je trouve que c'est aussi important que les femmes soient mises en avant. Et je trouve que c'est quelque chose de très très bien et d'actualité. Et puis après, la partie ouverture du poste aussi pour les jeunes, c'est bien parce qu'on est de plus en plus nombreux à créer nos boîtes ou à reprendre des sociétés. Et je pense que on a beaucoup à apprendre de nos aînés, tout comme ils ont beaucoup de choses aussi à apprendre de nous. Je pense que voilà, le partage qui peut se faire est vraiment important.
Très bien, mais écoutez, merci Sarah, vous en parle bien, hein, Sarah, de la CPME.
Ouais, j'ai eu son papa par SMS, il me demandait si elle stressait, j'ai dit non, elle est super à l'aise. On a trouvé peut-être la future présidente de la CPME.
Bon, bah super. Sarah, si des auditrices, auditeurs veulent vous contacter pour AZ Info, que faut-il faire?
C'est assez simple, on est sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook. On a aussi notre site internet, donc www.azinfo.fr. Et après, le téléphone, tout ça, sur Google, on nous trouve assez facilement.
Très bien, écoutez, formidable. Merci infiniment, Sarah Bellaille.
Merci à vous.
C'était un vrai plaisir de mieux vous connaître.
Pour moi aussi.
Voilà, l'économie en direct sur IDFM Radio, ça continue dans quelques minutes. À tout de suite.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone, with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am.
Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It only hit until you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
Ils sont tous adhérents de la CPME du Val d'Oise et viennent nous dire pourquoi. Pour en parler ce matin, l'économie en direct sur IDFM Radio, je reçois Laurent Pillard, président de la CPME du Val d'Oise, donc CPME Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI du Val d'Oise, fondateur et dirigeant de l'ENA Conseil et l'agence 46. Sarah Bellaille, directrice de gestion chez AZ Info, adhérente de la CPME. Pierre-Yves Conan, directeur commercial, cofondateur de Orbital Healthcare et adhérent de la CPME. Et c'est parti avec vous, Pierre-Yves Conan.
Merci. Donc, Jacqueline.
Merci d'être à nos côtés. Alors, Pierre-Yves Conan, qui êtes-vous ?
Bah, d'abord, merci de m'inviter.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous.
C'est un privilège, merci. Donc, en fait, Orbital Healthcare est une société toute jeune qui a été créée ici dans le Val d'Oise il y a un peu moins d'un an.
Oui. En
fait, l'histoire a démarré il y a presque 3 ans en Hongrie, à Budapest, où à l'occasion du Covid, mon associé a commencé à distribuer des dispositifs médicaux, des consommables. Alors juste pour expliquer ce que l'on fait, on a 2 grandes catégories de produits. On a toute une série de produits qui sont destinés aux laboratoires d'analyse médicale, tout ce qui est aiguilles, tubes, par exemple, tubes oui. de prélèvement. Et on a une deuxième catégorie de produits qui s'adresse plus aux hôpitaux, donc pour tout ce qui est transfusion et support aux salles d'opération. Voilà, un peu glamour. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'aventure a bien commencé sur l'Europe de l'Est. Et comme je connaissais le fondateur, il m'a proposé de développer le marché français. Et ayant une expérience assez longue en Europe centrale, on est très intégré auprès des industriels de la région. Et on s'est aperçu pendant le Covid que beaucoup, beaucoup de produits de tout type, pas simplement des masques, mais sont importés de Chine.
Oui.
Et connaissant les industriels locaux qui sont capables de proposer beaucoup de produits,
c'est-à-dire plutôt que
d'importer de Chine, pourquoi pas proposer en France des produits fabriqués en Europe, même si c'est pas fabriqué en France, c'est toujours mieux que fabriquer
plus près que la Chine.
Voilà, exactement, le bout de la planète. Donc voilà la genèse de la création de Orbital Healthcare. Et pourquoi est-ce que c'est un nom anglais ? C'est parce qu'on vend sur plusieurs pays. Voilà.
Et alors, et Orbital, hein, parce que vous faites le tour de la Terre.
Non, c'est simplement Orbital. C'est un mot qui est assez génial. Générique, qui pouvait matcher sur beaucoup de pays, beaucoup de cultures différentes, qui veut dire plein de choses. Et Orbital, c'est aussi le nom d'un roman de science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction.
Ah,
Alors, voilà.
on va tout savoir. Donc, Pierre-Yves Conan, cette Europe de l'Est, je vois que vous avez fait des études à Budapest, donc un pays que vous affectionnez particulièrement.
Oui, tout à fait. Au-delà des clichés qu'on peut avoir sur l'aspect politique de la Hongrie, c'est quand même un pays qui est assez fantastique, avec des gens très accueillants et J'étais dans l'industrie, pas dans l'industrie médicale, mais dans l'industrie textile à l'époque. Et avec mon directeur général m'a poussé à reprendre des études. J'ai fait un MBA à Budapest. Et ce qui est un tremplin après 20 ans de carrière, c'est toujours bien de se remettre un peu à jour, de voir quels sont les outils à disposition justement pour gérer une entreprise, mais aussi devenir entrepreneur. C'est aussi ça qui m'a aidé à me lancer et être un peu plus en confiance.
Oui, oui, très bien. Donc cette création, c'est un rapport direct avec la crise, hein, où la Covid a remis en question certains modèles économiques.
Exactement. Et en fait, tous, on a entendu parler de problèmes d'approvisionnement, de que ce soit sur des dispositifs médicaux, en fait, du matériel ou des médicaments. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en tant que PME, comme on connaît bien le réseau industriel local, mais aussi européen, on essaye d'aider soit des hôpitaux, des centres de santé, des laboratoires d'analyse médicale qui viennent vers nous simplement en nous expliquant quels sont leurs problèmes. On y travaille, on leur trouve des solutions. Dans quasiment tous les cas, on arrive à trouver des solutions.
Oui, vous nous avez expliqué que donc beaucoup de ces matériels venaient de Chine. Et là, toujours, je continue un peu sur mon idée de la crise. C'est presque un risque viral au sens épidémiologique qui oblige désormais à repenser les chaînes d'appro et la qualité même de ces approvisionnements.
Exactement. Comme ça a été expliqué en plus dans l'intervention de votre intervenant sur la géopolitique,
oui,
on voit bien que toutes les chaînes d'approvisionnement intercontinentales sont à risque,
impactées,
et où même si on a des chaînes qui fonctionnent, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, dans 1 an, le risque est important. Donc l'idée, c'est de se positionner en essayant de raccourcir au moins les chaînes en termes de kilomètres, hein, de se dire, même si c'est fabriqué en Allemagne ou même dans les pays baltes, c'est 2-3 jours de camion, c'est gérable. Si il y a un problème ou un questionnement ou un développement qui est souhaité.
Les avions sont arrêtés comme c'était le cas.
Un coup de voiture, on peut y aller, quoi.
Ouais, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la raison d'être de la société Orbital Healthcare, c'est donc de promouvoir des consommables, des dispositifs médicaux fabriqués en Europe, donc à destination des structures hospitalières. Qui sont vos clients?
Alors en fait, nos clients, on s'adresse principalement aux hôpitaux. Donc on a une action commerciale en ce moment même beaucoup sur la région parisienne où on contacte les hôpitaux, que ce soit publics, privés, ainsi que donc à travers tous les pharmaciens de ces hôpitaux qui sont prescripteurs. Et aussi, on a une action auprès des maisons de retraite, EHPAD, qui sont aussi consommateurs d'une partie de notre catalogue. Et ça se passe plutôt bien. Donc, sur l'aspect public, évidemment, il y a beaucoup d'actions qui se passent par des appels d'offres, évidemment.
Oui.
Mais liés à ces problèmes d'approvisionnement, des fois, les entreprises qui ont été sélectionnées à travers des appels d'offres ne sont pas capables de répondre. Et dans ce cas-là, nous, on intervient.
Et malgré, parce que vous parlez, c'est bien que vous parlez des appels d'offres, le fait, votre approvisionnement, il est donc en concurrence directe avec la Chine. Est-ce qu'au niveau des prix, il n'y a pas d'influence?
Alors si, il y a un impact important, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on se retrouve sur des appels d'offres qui ont été dimensionnés pour... Le critère principal, c'est le prix. C'est compliqué, on va pas se mentir. Par contre,
ce qui est quand même dans les hôpitaux un facteur important.
Tout à fait. Dans n'importe quelle industrie, c'est normal.
Ouais. Mais on a le sentiment que dans les hôpitaux, c'est particulièrement prégnant.
Oui, tout à fait. Mais par contre, on essaye de faire de la pédagogie et ça commence à adhérer de plus en plus en disant ben, le prix est un facteur important, mais aussi la sécurisation de la chaîne logistique est aussi un facteur important dans la qualité du soin, c'est-à-dire pouvoir s'assurer que ce soit un cathéter, un tube ou une aiguille de suture soit en permanence disponible et disponible au lieu et au moment donné.
Comme je l'ai demandé à Sarah, je suppose que votre activité est une activité très concurrentielle.
Tout à fait. Il y a des entreprises leaders, mais comme l'expliquait Sarah, la différence vient aussi dans la relation humaine, ouais. La réactivité, le fait de pouvoir être à l'écoute et d'avoir, bah, à travers des PME, on est aussi très agile, on peut réagir bien plus vite sans forcément être beaucoup plus cher que des grandes structures qui ont leur lourdeur administrative, ils ont des avantages et des inconvénients et nous on joue là-dessus.
Alors vous êtes aussi, si j'ai bien compris, vous distribuez, vous êtes donc grossiste. Hein,
tout à fait.
Vous êtes grossiste sans citer nom comme des noms très connus en France.
Tout à fait. En fait, c'est que qu'est-ce que je veux dire, des noms des marques.
Je pensais à l'OCP notamment qui.
OCP, ce serait plutôt un client ou un fournisseur d'accord. En fonction de la relation, mais ouais. Mais effectivement, pour être similaire à ce type de d'entreprise, et sachant que nous, on est plutôt distributeur auprès des fabricants, c'est-à-dire on est en relation directe avec les fabricants, ah oui. Que ce soit des grands groupes ou des PME, et c'est la plupart du temps sont des PME qui fabriquent par elles-mêmes, du coup on va voir directement les hôpitaux, les établissements de santé.
Alors, en préparant le dossier, je me suis aussi intéressée au fait que peut-être l'avantage de trouver ces produits en Europe, c'est aussi le respect des contraintes RSE, qui en Chine, j'imagine, n'existe pas.
Alors, en fait, c'est que, sans dénigrer forcément tous les pays asiatiques, il y a des usines qui fonctionnent très très bien, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vérifier par soi-même.
Il n'y a pas d'obligation comme il y en a en Europe.
Les normes ne sont pas les mêmes, évidemment. Mm-hmm. C'est de notoriété publique, et que ce soit en Chine, en Inde, en Indonésie ou dans tous ces pays-là. Et l'aspect RSE, c'est que nous, la plupart de nos produits, c'est du plastique. Mm-hmm. Qui est justifié parce que on a une obligation de sanitaire par rapport aux soins. Mais le but du jeu, c'est de dire, comprendre l'ensemble de la consommation carbone du produit, de sa conception, fabrication et transport. Et la RSE que nous, on promeut est beaucoup sur cet aspect-là en disant, quitte à utiliser un produit à usage unique sanitaire, autant essayer de faire en sorte qu'il soit fabriqué le plus près possible du consommateur.
Bien sûr, en respectant l'environnement toujours.
Toujours.
Pour favoriser votre marché. Vous voulez faire du développement commercial. Comment l'envisagez-vous?
Le développement commercial, il se fait de manières. En fait, il y a une première aspect, c'est s'intégrer auprès du tissu local, industriel et économique. Donc, c'est ce que l'on fait. Ayant travaillé beaucoup à l'étranger, mon premier réflexe en revenant dans le Val d'Oise, il y a un peu plus d'un an, c'était de dire, faut que je me mette en relation avec la Chambre de commerce. Ça, c'était le réflexe. Ouais. Et rapidement, la Chambre de commerce m'a recommandé, en termes de réseau, d'entreprise, la CPME. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis quelques mois, je suis adhérent. Et ça, c'est le premier contact, c'est même sans forcément y rencontrer des clients, mais c'est rencontrer tout le tissu économique local qui permet à l'entreprise de fonctionner. Tout simplement, on a besoin de tous les services supports, on a besoin aussi de savoir qu'est-ce qui se passe, on a besoin d'avoir aussi beaucoup d'informations liées à la gestion de l'entreprise en fonction... On a tous les mêmes soucis de gestion, peu importe notre métier, en fait.
Absolument, c'est toujours un... C'est toujours très gratifiant de pouvoir rencontrer d'autres chefs d'entreprise et de pouvoir évoquer ces problématiques, même si on n'est pas dans la même activité.
Exactement, exactement. Ouais. Et donc, du coup, du point de vue commercial, rencontrer les acheteurs, les pharmaciens, les médecins des hôpitaux région parisienne, mais aussi on a des opportunités un peu toute France, mais principalement sur la région parisienne.
Oui, le but c'est de valoriser les produits made in France et made in Europe.
Exactement.
Dans les achats. Est-ce que vous avez une vision du monde économique de demain? Ou en tout cas, si oui, quelle est-elle?
En fait, la vision, c'est... Je pense que on va arriver de plus en plus avec les incertitudes politiques et à avoir une organisation où chaque continent va produire, en termes d'industriel, ses produits pour son propre continent. Donc en Europe, produire pour les consommateurs européens. Aux États-Unis, on voit bien avec le protectionnisme des lois Biden récemment, c'est produire aux US pour le continent américain dans sa globalité. Et beaucoup en Asie, produire en Asie pour en Asie. Et en Afrique, il y a un développement industriel aussi, surtout sur le Maghreb, qui est important. Et donc, il y a tout ce contexte qui, j'espère aussi, va favoriser la raison d'être de Orbital. On s'intègre dans un flux de long terme de développement de la planète. La globalisation où la supply chain est séparée sur plein de continents est en train de changer grandement.
Oui, c'est ça. Vous avez pris le bon virage au bon moment.
Nous espérons en tout cas. On y travaille.
Combien de salariés chez Orbital Healthcare?
Alors, en France, nous sommes trois. Nous sommes trois commerciaux. Et après, tout l'aspect de sourcing, logistique, etc. est fait à Budapest.
Très bien.
Où on a cinq employés.
Très bien. Pour vous contacter, Pierre-Yves Conan, que faut-il faire?
N'hésitez pas à nous contacter soit par le site internet ou sur LinkedIn. C'est assez facile de nous trouver, Orbital Healthcare. Et sinon, effectivement, contactez-nous par téléphone, tout simplement, et on répondra à vos besoins ou à vos questions pour échanger.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Yves Conan. Et puis, longue vie à Orbital Healthcare.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est une émission qui, dans quelques minutes, va se terminer. Donc, je vais refaire... j'ai l'habitude de redonner la parole à mes invités avant qu'on se quitte. Donc, je commence avec vous, Sarah. Un petit mot avant de se quitter.
Oui, mais encore merci surtout pour l'invitation. Et après, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Je trouve que c'est bien de pouvoir prendre la parole et pouvoir discuter aussi bien de la CPME que des actualités ou même de ce qu'on peut proposer, puisque ça permet de se faire connaître un petit peu et puis et surtout que la CPME gagne en notoriété aussi là-dessus, donc c'est vraiment bien.
Je pense qu'elle a un président qui fait que sa notoriété elle est assurée en tout cas en ce moment. Merci Sarah, merci. Juste un mot encore sur votre activité. Tout à l'heure, je vous demandais aussi chez AZ Info, on parle beaucoup de cybersécurité. C'est important dans votre activité.
Oui, tout à fait. Faut savoir quand même que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est vraiment, on le voit d'ailleurs, c'est de plus en plus médiatisé. Ne serait-ce que les attaques au niveau des hôpitaux qui ont fait beaucoup de bruit. C'est vraiment important que les entreprises comprennent qu'il faut protéger leurs données, qu'il faut protéger leur réseau, qu'aujourd'hui ça peut rentrer par n'importe où, que ce soit un mail qui à première vue a l'air tout à fait normal et pourtant qui cache beaucoup de choses. Donc c'est vraiment important de protéger les structures et il y a de plus en plus de choses qui sont aussi mises en place par l'État, donc nous on est en train de voir éventuellement pour se faire labelliser aussi. Et après, c'est aussi faire comprendre aux entrepreneurs, et ça, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, c'est encore très abstrait pour eux. Et ils ont beaucoup de mal à investir aussi dans la sécurité, et pourtant, ils ont beaucoup à y gagner, parce qu'en cas d'attaque, après,
c'est la cata.
C'est la grosse catastrophe. Donc voilà. On essaie de sensibiliser un maximum là-dessus.
Je crois que le mot d'ordre, c'est de dire que on sera de toute façon un jour attaqué. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand.
C'est exactement donc, ce qu'il faut vraiment qu'il faut être, se dire. Ouais, tout à fait.
Ouais, très bien. Merci beaucoup, Sarah Bellay.
Merci à vous. Merci.
Pierre-Yves Conan, je vous donne la parole à nouveau pour un mot de conclusion.
Non, ben, merci de l'invitation, une fois de plus. Moment très agréable de pouvoir partager auprès de vous et auprès des auditeurs ce qui nous motive tous les jours et ce qui nous fait avancer. Et voilà, et aussi très content, après avoir été parti pendant plusieurs années à l'étranger, de revenir dans le Val d'Oise. C'est là où j'ai grandi. Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui repart.
Je vous ai pas demandé où était situé Orbital Esker dans le Val d'Oise.
Alors en fait, on a le privilège d'être basé auprès de la pépinière d'entreprise 14K à Montmagny.
Oui.
Très belle structure avec beaucoup de support de la part de la communauté de communes.
Pleine Vallée.
Et donc c'est tout cette ensemble de supports entre la pépinière d'entreprise, Pleine Vallée, CPME, CCI, en fait, c'est tout un écosystème qui prend sens et on se sent vraiment supporté et ça facilite grandement la vie de l'entreprise.
Je comprends.
Croyez-moi.
Et comme nous le disons un peu à presque chaque émission, en tout cas avec vous, Laurent, avec Pierre Cuchely, c'est que il y a à peu près 70 réseaux dans le Val d'Oise.
Tout à fait.
Et où l'entente est vraiment assez exceptionnelle dans le département.
Tout à fait. Ouais. Donc justement, auprès du salon Effervescence où nous avons aussi exposé cette semaine, on a rencontré d'autres réseaux et voilà. Donc
ça, vous avez ressenti cette...
Oui, voilà. Donc on va certainement aussi adhérer à d'autres réseaux en complément de ce que l'on fait déjà.
Très bien. Écoutez, merci en tout cas. Moi aussi, j'étais ravie de vous rencontrer, d'en savoir plus sur Orbital Healthcare. Laurent, le mot de la fin, c'est pour vous.
Ben parfait, merci. Déjà, je tenais à remercier Sarah et Pierre-Yves d'être venus, d'avoir accepté l'invitation, de jouer le jeu. C'est pas évident, c'était leur première radio.
Oui.
Bon, Pierre-Yves, j'ai bien compris qu'il allait rejoindre le Club Export, dont se charge Yves Sageot avec Vincent Bosch. Donc voilà, ça va permettre aussi d'ouvrir d'autres horizons. Autre que des contacts qu'on peut faire au travers des déjeuners. Et Sarah, la félicité, vous avez vu, 25 ans,
oui,
très à l'aise.
Ouais.
Donc voilà, c'était une belle candidature. Elle a été élue à l'unanimité, seule candidate. Mais je sais déjà qu'elle fera très bien le job. Et elle l'a dit elle-même, c'était une volonté. Parce que moi, j'ai créé ma boîte il y a 28 ans, j'avais 23 ans. Et ceux qui avaient 50 ans, pour moi, c'était des vieux. Alors aujourd'hui, à 52 ans, je me suis dit que je faisais partie des plus jeunes du conseil d'administration. Je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on a créé ces deux postes. Voilà, vous voyez, il n'y a pas photo. Ça se voit pas, les auditeurs le voient pas, mais avec Pierre-Yves, on est tous les deux avec notre cahier et notre stylo. Pour prendre des notes et pour se présenter, Sarah est avec son téléphone, donc voilà, elle est déjà au tout numérique bien avant nous. Et voilà, c'est ça aussi qu'on attend d'elle. Avec parité oblige, on attend aussi un jeune homme de moins de 30 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Donc les remercier, les féliciter pour leur engagement. Deux événements à venir pour la CPME. Le 7 avril, le repas mensuel des adhérents, qui a lieu donc à l'auberge du Quai à la Frette-sur-Seine. Alors dépêchez-vous, parce que bon, même si c'était encore dans une semaine, il n'y a pas beaucoup de places.
D'accord.
Le nombre de places est limité.
Ok.
Enfin, c'est pas le restaurant qui veut ça, c'est la popularité de la CPME. depuis le début de l'année, on n'a pas fait un événement en dessous de 130 personnes.
Voilà, d'accord.
Donc voilà, et avec des contraintes où le restaurant bloqué à 130 parce qu'il n'y a plus de place,
oui.
240 personnes au moment des vœux, 160 à l'Assemblée Générale, j'ai dit. Voilà, donc là, c'est bientôt complet, donc dépêchez-vous si vous voulez venir. Et le 24 avril, on fait une soirée, un after work sur la santé du dirigeant. Donc voilà, événement aussi important. Donc voilà, on va communiquer là dans les jours qui viennent.
Quel jour, Laurent ?
Le 24 avril.
24 avril, très bien. Et donc, vous savez à quel endroit ça a lieu ou pas encore ?
Pas encore. Ça dépend un peu du... Il y a 4 intervenants, le nombre de personnes. Là, on est en train de finaliser l'événement.
Donc là, ce sera plutôt en soirée.
Ça sera en soirée, after work.
D'accord, très bien.
Voilà, ça fait partie des événements qu'on fait aussi dans l'année. Et puis voilà ce que j'avais à dire. Et puis j'avais un scoop. pour finir, je voulais annoncer que, bon, alors, je sais pas si elle va être contente, mais je me marie au mois de juillet avec Marie-Ange. Donc
c'est
voilà.
Bien.
Je l'embrasse parce qu'elle nous écoute et là, elle va me tuer. Voilà.
Oui, mais félicitations. Le temps que vous rentriez, la pression la sera tombée. Voilà. Ben, félicitations, Laurent, mais beaucoup de bonheur à venir. Merci Laurent, merci. Mais écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à l'économie en direct et puis d'avoir été les ambassadeurs une fois plus de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises du Val d'Oise. Et je le rappelle, sa punchline, c'est aider, soutenir, défendre les TPE et PME. Voilà, c'est la fin de l'émission. On est un petit peu en avance pour terminer l'émission, mais après. Merci à vous tous qui nous suivez à chaque émission. Merci Christophe pour la technique. Tout de suite à 11h, retrouvez Christophe Graffro et son émission Balade musicale. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le portail de la radio idfm98.fr. Mardi prochain à 9h30, troisième volet du label Amplitude. Alors à mardi, belle journée, bon week-end et prenez soin de vous et de vos proches.